Lecture d'enfance. C'était en 1988. La réalisatrice Marguerite Gatteau allait à la rencontre d'un acteur ou d'une actrice et l'interrogeait sur son premier souvenir de lecture. Toute une bibliothèque de l'enfance se dessine, transmise de génération en génération.
La tapisserie, la cheminée très, très travaillée, les sièges 1830 en fait, un petit peu de cette époque. Mais ce qui est drôle, c'est le petit bout de chou de 4 ans qui dit je vais en parler à ma bonne, comme si elle lui appartenait. Enfin, elle fait partie, la bonne de Sophie, elle en parle comme si c'était un jouet, enfin, si c'était, elle faisait partie de ses jouets.
Première lecture, lecture d'enfance. Aujourd'hui, Sylvie Joly lit « Les malheurs de Sophie » de la comtesse de Ségur.
Le poulet noir. Sophie allait tous les matins avec sa maman dans la basse-cour, où il y avait des poules de différentes espèces et très belles. Madame de Réan avait fait couver des œufs desquels devaient sortir des poules huppées superbes. Tous les jours, elle allait voir avec Sophie si les poulets étaient sortis de leur œuf. Sophie emportait dans un petit panier du pain qu'elle émiettait aux poules. Aussitôt qu'elle arrivait, toutes les poules, tous les coqs accouraient, sautaient autour d'elle, becquetaient le pain presque dans ses mains et dans son panier. Sophie riait, courait. Les poules la suivaient, ce qui l'amusait beaucoup. Pendant ce temps, sa maman entrait dans une grande et belle galerie où demeuraient les poules. Elles étaient logées comme des princesses et soignées mieux que beaucoup de princesses. Sophie venait la rejoindre quand tout son pain était émietté. Elle regardait les petits poulets sortir de leurs coquilles et qui étaient trop jeunes encore pour courir dans les champs. Un matin, quand Sophie entra au poulailler, elle vit sa maman qui tenait un magnifique poulet, né depuis une heure. Oh, le joli poulet, maman, ses plumes sont noires comme celles d'un corbeau. Regarde aussi quelle jolie huppe il a sur la tête. Ce sera un magnifique poulet. Madame de Réan le replaça près de la poule couveuse. À peine l'avait-elle posé que la poule donna un grand coup de bec au pauvre poulet. Madame de Réan donna une tape sur le bec de la méchante poule, releva le petit poulet qui était tombé en criant et le remit près de la poule. Cette fois, la poule furieuse donna au pauvre petit 2 ou 3 coups de bec et le poursuivit quand il chercha à revenir. Madame de Réan accourut et saisit le poulet que la mère allait tuer à force de coups de bec. Elle lui fit avaler une goutte d'eau pour le ranimer. « Qu'allons-nous faire de ce poulet ?» dit-elle. « Impossible de le laisser avec sa méchante mère, elle le tuerait. Il est si beau que je voudrais pourtant l'élever. »«
Écoutez, maman, mettez-le dans un grand panier, dans la chambre où sont mes joujoux. Nous lui donnerons à manger, et quand il sera grand, nous le remettrons au poulailler. »«
Je crois que tu as raison. Emporte-le dans ton panier à pain et arrangeons-lui un lit. »
« Oh maman, regardez son cou, il saigne, et son dos aussi. »«
Ce sont les coups de bec de la poule. Quand tu l'auras rapporté à la maison, tu demanderas à ta bonne du cérat et tu lui en mettras sur ses plaies. » Sophie n'était certainement pas contente de voir des blessures au poulet. Mais elle était enchantée d'avoir à y mettre du cérat. Elle courut donc en avant de sa maman, montra à sa bonne le poulet, demanda du cérat et lui en mit des paquets sur chaque place qui saignait. Ensuite, elle lui prépara une pâtée d'œufs, de pain et de lait qu'elle écrasa et mêla pendant une heure. Le poulet souffrait. Il était triste. Il ne voulut pas manger. Il but seulement plusieurs fois de l'eau fraîche. Au bout de 3 jours, les plaies du poulet furent guéries et il se promenait devant le perron du jardin. Un mois après, il était devenu d'une beauté remarquable et très grand pour son âge. On lui aurait donné 3 mois pour le moins. Ses plumes étaient d'un noir bleu très rare, lisse et brillante comme s'il sortait de l'eau. Sa tête était couverte d'une énorme huppe de plumes noires, oranges, bleues, rouges et blanches. Son bec et ses pattes étaient roses, sa démarche était fière, ses yeux étaient vifs et brillants. On n'avait jamais vu un plus beau poulet. C'était Sophie qui s'était chargée de le soigner. C'était elle qui lui apportait à manger. C'était elle qu'il gardait lorsqu'il se promenait devant la maison. Dans peu de jours, on devait le remettre au poulailler parce qu'il devenait trop difficile à garder. Sophie était quelquefois obligée de courir après lui pendant une demi-heure sans pouvoir le rattraper. Une fois même, il avait manqué se noyer en se jetant dans un bassin plein d'eau qu'il n'avait pas vu, tant il courait vite pour se sauver de Sophie. Elle avait essayé de lui attacher un ruban à la patte, mais il s'était tant débattu qu'il avait fallu le détacher de peur qu'il ne se cassât la jambe. La maman lui défendit alors de le laisser sortir du poulailler. « Il y a ici beaucoup de vautours qui pourraient l'enlever. Il faut donc attendre qu'il soit grand pour le laisser en liberté, » dit Madame de Réan. Mais Sophie, qui n'était pas obéissante, continuait de le faire sortir en cachette de sa maman. Et un jour, sachant sa maman occupée à écrire, elle apporta le poulet devant la maison. Il s'amusait à chercher des moucherons et des vers dans le sable et dans l'herbe. Sophie peignait sa poupée à quelques pas du poulet qu'elle regardait souvent pour l'empêcher de s'éloigner. En levant les yeux, elle vit avec surprise un gros oiseau, au bec crochu, qui s'était posé à trois pas du poulet. Il regardait le poulet d'un air féroce et Sophie d'un air craintif. Le poulet ne bougeait pas. Il s'était accroupi et il tremblait. « Quel drôle d'oiseau !» dit Sophie. « Il est beau, mais quel air singulier il a !» Quand il me regarde, il a l'air d'avoir peur, et quand il regarde le poulet, il lui fait des yeux furieux. Qu'il est drôle! Au même instant, l'oiseau pousse un cri perçant et sauvage, s'élance sur le poulet qui répond par un cri plaintif, le saisit dans ses griffes et l'emporte en s'envolant à tire-d'aile. Sophie resta stupéfaite. La maman, qui était accourue au cri de l'oiseau, demanda à Sophie ce qui était arrivé. Sophie raconte qu'un oiseau a emporté le poulet et ne comprend pas ce que cela veut dire. Cela veut dire que vous êtes une petite désobéissante, que l'oiseau est un vautour, que vous lui avez laissé emporter mon beau poulet qui est tué, dévoré par ce méchant oiseau, et que vous allez rentrer dans votre chambre où vous dînerez et où vous resterez jusqu'à ce soir pour vous apprendre à être plus obéissante une autre fois. Sophie baissa la tête et s'en alla tristement dans sa chambre. Elle dîna avec la soupe et le plat de viande que lui apporta sa bonne, qui l'aimait et qui pleurait de l'avoir pleuré. Sophie pleurait son pauvre poulet, qu'elle regretta bien longtemps. Quand on lisait les malheurs de Sophie, d'abord on s'identifiait complètement à cette petite fille dans les bêtises qu'on pouvait faire, et puis elle a fait partie, à chaque âge on a des héroïnes, mais à un certain âge évidemment on a une héroïne, c'est Sophie, ça c'est sûr, après ça change, mais à un certain moment c'est évident que cette petite fille représente une espèce d'héroïne formidable.
Et vous vous souvenez quand et comment vous l'avez lu, dans quel livre, dans quel endroit?
Oui, parce que j'avais la chance extraordinaire que dans la maison de ma grand-mère, il y avait justement toute la collection de la comtesse de Ségur dans la très jolie collection rouge, grande, avec les caractères en doré et les illustrations superbes. Donc je me rappelle que je n'arrivais même pas à dormir le soir. Bon, c'était vraiment les lits avec la campagne, un peu avec les couettes, les choses comme ça. Et puis on mettait cette chose pour bassiner dans le lit. Et alors là, une fois que tout le monde était couché, je recherchais toutes ces semaines de Suzette et tous ces livres. Et j'ai lu Les malheurs de Sophie et Les petites filles modèles dans cette collection magnifique. Mais ça, je crois franchement qu'en plus, justement, Sophie, c'est un personnage auquel je m'identifiais complètement.
Et votre maman était aussi magnanime et Madame de Réan?
Non, mais c'est-à-dire qu'elle avait fort à faire. En plus, on était une famille très nombreuse. Et donc, je dois dire que mes pauvres parents, je les menais à rude épreuve quand même.
Votre grand-mère, vous lisait aussi des histoires le soir?
Ma grand-mère, elle n'était pas très patiente avec les enfants. Donc, c'était pas tellement... Non, maman, oui. Elle nous lisait des histoires, bien sûr. Mais ça, quand on lit les malheurs de Sophie, on sait lire quand même. On sait lire soi-même. On arrive à lire très bien, donc on n'a plus besoin de personne.
Si vous étiez une petite Sophie, vous ne lisiez pas beaucoup?
Non, c'est vrai que je lisais pas beaucoup, parce que j'aimais mieux exercer mes activités moi-même, à inventer des sottises à faire, et j'étais pas non plus très studieuse, donc j'étais pas une bonne élève, j'étais carrément une mauvaise élève, une très mauvaise élève, donc c'est vrai que je lisais pas énormément, mais j'adorais les livres illustrés.
Ça, je crois que tous les enfants adorent ça.
Les petits poissons. Sophie était étourdie. Elle faisait souvent, sans y penser, de mauvaises choses. Voici ce qui lui arriva un jour. Sa maman avait des petits poissons, pas plus longs qu'une épingle et pas plus gros qu'un tuyau de plumes de pigeon. Madame de Réan aimait beaucoup ces petits poissons, qui vivaient dans une cuvette pleine d'eau, au fond de laquelle il y avait du sable pour qu'ils puissent s'y enfoncer et s'y cacher. Tous les matins, Madame de Réan portait du pain à ces petits poissons. Sophie s'amusait à les regarder pendant qu'ils se jetaient sur les miettes de pain et qu'ils se disputaient pour les avoir. Un jour, son papa lui donna un joli petit couteau en écaille. Sophie, enchantée de son couteau, s'en servait pour couper son pain, ses pommes, des biscuits, des fleurs, etc. Un matin, Sophie jouait avec son ménage. Sa bonne lui avait donné du pain qu'elle avait coupé en tout petits morceaux, des amandes qu'elle coupait en tranches et des feuilles de salade. Elle demanda à sa bonne de l'huile et du vinaigre pour faire la salade. « Non, répondit la bonne, je veux bien vous donner du sel, mais pas d'huile ni de vinaigre qui pourrait tacher votre robe. » Sophie prit le sel, en mit sur sa salade. Il lui en restait beaucoup. « Si j'avais quelque chose à saler, se dit-elle, je ne peux pas saler du pain, il me faudrait de la viande ou du poisson. Oh, la bonne idée, je vais saler les petits poissons de maman, j'en couperai quelques-uns en tranches avec mon couteau, je salerai les autres tout entier, que ce sera amusant, quelle jolie place ça fera. » Et voilà Sophie qui ne réfléchit pas que sa maman n'aura plus ces jolis poissons qu'elle aime tant, que ses pauvres petits souffriront beaucoup d'être salés vivants ou d'être coupés en tranches. Sophie court dans le petit salon où étaient les petits poissons, elle s'approche de la cuvette, les pêche tous, les met dans une assiette de son ménage, retourne à sa petite table, prend quelques-uns de ses pauvres poissons et les étend sur un plat. Mais les poissons, qui ne se sentaient pas à l'aise hors de l'eau, remuaient et sautaient tant qu'ils pouvaient. Pour les faire tenir tranquilles, Sophie leur verse du sel sur le dos, sur la tête, sur la queue. En effet, il reste immobile. Les pauvres petits étaient morts. Quand son assiette fut pleine, elle en prit d'autres et se mit à les couper en tranches. Au premier coup de couteau, les malheureux poissons se tordaient en désespérés, mais ils devenaient bientôt immobiles parce qu'ils mouraient. Après le second poisson, Sophie s'aperçut qu'elle les tuait en les coupant en morceaux. Elle regarda avec inquiétude les poissons salés. Ne les voyant pas remuer, elle les examina attentivement et vit qu'ils étaient tous morts. Sophie devint rouge comme une cerise.
« Que va dire maman ?» se dit-elle. « Que vais-je devenir, moi, pauvre malheureuse ? Comment faire pour cacher cela ?»
Elle réfléchit un moment. Son visage s'éclaircit. Elle avait trouvé un moyen excellent pour que sa maman ne s'aperçût de rien. Elle ramassa bien vite tous les poissons salés et coupés, les remit dans une petite assiette, sortit doucement de la chambre et les reporta dans leur cuvette. « Maman croira, dit-elle, qu'ils se sont battus, qu'ils se sont tous entre-déchirés et tués. Je vais essuyer mes assiettes, mon couteau et ôter mon sel. Ma bonne n'a heureusement pas remarqué que j'avais été chercher les poissons. Elle est occupée de son ouvrage et ne pense pas à moi. » Sophie rentra sans bruit dans sa chambre, se remit à sa petite table et continua de jouer avec son ménage. Au bout de quelque temps, elle se leva, prit un livre et se mit à regarder les images. Mais elle était inquiète, elle ne faisait pas attention aux images, elle croyait toujours entendre arriver sa maman. Tout d'un coup, Sophie tressaille, rougit. Elle entend la voix de Madame de Réan qui appelait les domestiques. Elle l'entend parler haut comme si elle grondait. Les domestiques vont et viennent. Sophie tremble que sa maman n'appelle sa bonne, ne l'appelle elle-même. Mais tout se calme, elle n'entend plus rien. Sa bonne, qui avait aussi entendu du bruit et qui était curieuse, quitte son ouvrage et sort. Elle rentre un quart d'heure après. Comme c'est heureux, dit-elle à Sophie, que nous ayons été toutes deux dans notre chambre sans en sortir. Figurez-vous que votre maman vient d'aller voir ses poissons. Elle les a trouvés tous morts, les uns entiers, les autres coupés en morceaux. Elle a fait venir tous les domestiques pour leur demander quel était le méchant qui avait fait mourir ces pauvres petites bêtes. Personne n'a pu ou n'a voulu rien dire. Je viens de la rencontrer venant ici. Elle m'a demandé si vous aviez été dans le salon. J'ai heureusement pu lui répondre que vous n'aviez pas bougé d'ici, que vous vous étiez amusé à faire la dînette dans votre petit ménage.
« C'est singulier, dit-elle. J'aurais parié que c'est Sophie qui a fait ce beau coup. »«
Oh, madame, ai-je répondu, Sophie n'est pas capable d'avoir fait une chose si méchante. »«
Tant mieux, dit votre maman, car je l'aurais sévèrement punie. C'est heureux pour elle que vous ne l'ayez pas quittée et que vous m'assuriez qu'elle ne peut pas avoir fait mourir mes pauvres poissons. »
« Oh, quant à cela, madame, j'en suis bien certaine, ai-je répondu. »
Sophie ne disait rien. Elle restait immobile, rouge, la tête baissée, les yeux pleins de larmes. Elle eut envie un instant d'avouer à sa bonne que c'était elle qui avait tout fait, mais le courage lui manqua. Sa bonne, la voyant triste, crut que c'était la mort des pauvres petits poissons qui l'affligeaient.
« J'étais bien sûre, dit-elle, que vous seriez triste comme votre maman du malheur arrivé à ces pauvres petites bêtes. Mais il faut se dire que ces poissons n'étaient pas heureux dans leur prison, car en fait cette cuvette était une prison pour eux. À présent que les voient la mort, ils ne souffrent plus. N'y pensez donc plus, et venez que je vous arrange pour aller au salon. On va bientôt dîner. »
Sophie se laissa peigner, laver sans dire mot. Elle entra au salon, sa maman y était.
« Sophie, lui dit-elle, ta bonne t'a-t-elle raconté ce qui est arrivé à mes petits poissons ?»«
Oui, maman. Si ta bonne ne m'avait assuré que tu étais restée avec elle dans ta chambre depuis que tu m'avais quittée, j'aurais cru que c'est toi qui les as fait mourir. Tous les domestiques disent que ce n'est aucun d'eux. Mais je crois que le domestique Simon, qui était chargé de changer tous les matins l'eau et le sable de la cuvette, a voulu se débarrasser de cet ennui et qu'il a tué mes pauvres poissons pour ne plus avoir à les soigner. Aussi, je le renverrai demain.
Oh, maman, ce pauvre homme, que deviendra-t-il avec sa femme et ses enfants?
Tant pis pour lui. Il ne devait pas tuer mes petits poissons, qui ne lui avaient fait aucun mal et qui l'a fait souffrir en les coupant en morceaux.
Mais ce n'est pas lui, maman. Je vous assure que ce n'est pas lui.
Comment sais-tu que ce n'est pas lui? Moi, je crois que c'est lui, que ce ne peut être que lui. Et dès demain, je le ferai partir.
Oh non, maman, ne le faites pas. C'est moi qui ai pris les petits poissons et qui les ai tués.
Toi?
Quelle folie! Toi qui aimais ces petits poissons, tu ne les aurais pas fait souffrir et mourir. Je vois bien que tu dis cela pour excuser Simon.
Non, maman, je vous assure que c'est moi.
Oui, c'est moi. Je ne voulais pas les tuer. Je voulais seulement les saler, et je croyais que le sel ne leur ferait pas de mal. Je ne croyais pas non plus que de les couper leur fit mal, parce qu'ils ne criaient pas. Mais quand je les ai vus morts, je les ai reportés dans leur cuvette, sans que ma bonne qui travaillait m'ait vu sortir ni rentrer.
Madame de Réan resta quelques instants si étonnée de l'aveu de Sophie qu'elle ne lui répondit pas. Sophie leva timidement les yeux et vit ceux de sa mère fixés sur elle, mais sans colère ni sévérité.
Sophie, dit enfin Madame de Réan, si j'avais appris par hasard, c'est-à-dire par la permission de Dieu qui punit toujours les méchants, ce que tu viens de me raconter, je t'aurais puni sans pitié et avec sévérité. Mais le bon sentiment qui t'a fait avouer ta faute pour excuser Simon te vaudra ton pardon. Je ne te ferai donc pas de reproche, car je suis bien sûre que tu sens combien tu as été cruelle pour ces pauvres poissons, en ne réfléchissant pas d'abord que le sel devait les tuer, ensuite qu'il est impossible de couper et de tuer n'importe quelle bête sans qu'elle souffre. Et voyant que Sophie pleurait, elle ajouta « Ne pleure pas, Sophie, et n'oublie pas qu'avouer tes fautes, c'est te les faire pardonner. » Sophie essuya ses yeux, elle remercia sa maman, mais elle resta toute la journée un peu triste d'avoir causé la mort de ses petits amis, les poissons.
Cette histoire de petits poissons rouges, c'est vrai que c'est une histoire qui ressemble aussi à d'autres histoires de la comtesse de Ségur. Des histoires de cruauté d'enfants avec des mouches ou je sais pas quoi qui sont vraiment des choses absolument épouvantables. Bon, mais ça, j'ai l'impression d'avoir fait ça avec mes frères et j'étais déjà nettement plus grande. Alors vous voyez, par exemple, mes frères jetaient des bombes à eau du balcon comme des fous et moi je jetais des bombes à eau avec de l'eau tiède pour que les gens n'aient pas froid. Alors c'était quand même, j'avais un bon cœur, vous voyez. Mais tout le temps, ça n'arrêtait pas. Si bien que mon pauvre père, quand il arrivait, il rentrait de son travail et il voyait en bas une mare sous l'immeuble d'eau. Et il savait évidemment d'où ça venait.
Et dans la maison de vos parents, il y avait beaucoup de livres?
Oui, il y avait des livres. Mais c'est vrai que, alors là je vais vous dire quelque chose de très curieux, c'est que la génération de la guerre, il y avait l'achat des livres scolaires, ça c'était normal et en plus on les achetait d'occasion et on les revendait après, mais c'est vrai que c'était un petit peu
Acheter un livre, c'était quand même du luxe, ça faisait partie de ces choses, comme ça, comme acheter un disque, c'était complètement... Et moi, je suis restée imprégnée de ça, pratiquement. Maintenant, je commence à pouvoir m'acheter deux bouquins en n'ayant pas l'impression de faire une faute grave. C'est pas, je vois par exemple par rapport à mes enfants, bon, mes enfants, ils ont eu toute la bibliothèque rose, je leur achetais tous les livres qu'ils voulaient, ils étaient pas du tout, nous, non, les livres, ils passaient des uns aux autres, c'était considéré comme un luxe.
Les loups. Sophie n'était pas très obéissante, nous l'avons bien vu dans les histoires que nous venons de lire. Elle aurait dû être corrigée, mais elle ne l'était pas encore. Aussi lui arriva-t-il bien d'autres malheurs. Le lendemain du jour où Sophie avait eu 4 ans, sa maman l'appela et lui dit « Sophie, je t'ai promis que lorsque tu auras 4 ans, tu viendras avec moi faire mes grandes promenades du soir. Je vais partir pour aller à la ferme de Svitine en passant par la forêt. » Tu vas venir avec moi. Seulement, fais attention à ne pas rester en arrière. Tu sais que je marche vite, et si tu t'arrêtais, tu pourrais rester bien loin derrière avant que je ne puisse m'en apercevoir. Sophie, enchantée de faire cette grande promenade, promit de suivre sa maman de tout près et de ne pas se laisser perdre dans le bois. Paul, qui arriva au même instant, demanda à les accompagner à la grande joie de Sophie. Ils marchèrent bien sagement pendant quelque temps derrière Madame de Réan. Ils s'amusaient à voir courir et sauter quelques gros chiens qu'elle emmenait toujours avec elle. Arrivés dans la forêt, les enfants cueillirent quelques fleurs qui étaient sur leur passage, mais ils les cueillaient sans s'arrêter. Sophie aperçut tout près du chemin une multitude de fraisiers chargés de fraises. « Les belles fraises !» s'écria-t-elle. « Quel dommage de ne pas pouvoir les manger !» Madame de Réan entendit l'exclamation et, se retournant, elle lui défendit encore de s'arrêter. Sophie soupira et regarda d'un œil de regret les belles fraises dont elle avait si envie.
« Ne les regarde pas, lui dit Paul, tu n'y penseras plus. C'est qu'elles sont si rouges, si belles, si mûres, elles doivent être si bonnes. Plus tu les regarderas et plus tu en auras envie, puisque ma tante t'a défendu de les cueillir, à quoi sert-il de les regarder ?» Oh, j'ai envie d'en prendre seulement une. Ça ne me retardera pas beaucoup. Reste avec moi, nous en mangerons ensemble. Non, je ne veux pas désobéir à ma tante et je ne veux pas être perdue dans la forêt.
Mais il n'y a pas de danger. Tu vois bien que c'est pour nous faire peur que maman l'a dit. Nous saurions bien retrouver notre chemin si nous restions derrière.
Mais non, le bois est très épais, nous pourrions bien ne pas nous retrouver.
Fais comme tu voudras, poltron. Moi, à la première place de fraises comme celle que nous venons de voir, j'en mangerai quelques-unes. « Je ne suis pas poltron, mademoiselle, et vous, vous êtes une désobéissante et une gourmande. Perdez-vous dans la forêt si vous voulez, moi j'aime mieux obéir à ma tante. »
Et Paul continua à suivre Madame de Réan qui marchait assez vite et sans se retourner. Ses chiens l'entouraient et marchaient devant et derrière elle. Sophie aperçut bientôt une nouvelle place de fraises aussi belle que les premières. Elle en mangea une qu'elle trouva délicieuse, puis une seconde, une troisième. Elle s'accroupit pour les cueillir plus à son aise et plus vite. De temps en temps, elle jetait un coup d'œil sur sa maman et sur Paul qui s'éloignaient. Les chiens avaient l'air inquiets. Ils allaient vers le bois, ils revenaient. Ils finirent par se rapprocher tellement de Madame de Réan qu'elle regarda ce qui causait leur frayeur. Et elle aperçut dans le bois, au travers des feuilles, des yeux brillants et féroces. Elle entendit en même temps un bruit de branches cassées, de feuilles sèches. Se retournant pour recommander aux enfants de marcher devant elle, quelle fut sa frayeur de ne voir que Paul. « Où est Sophie ?» s'écria-t-elle.
« Elle a voulu rester en arrière pour manger des fraises, ma tante. Malheureux enfant, qu'a-t-elle fait? Nous sommes accompagnés par des loups. Retournons pour la sauver s'il est encore temps. »
Madame de Réan courut, suivie de ses chiens et du pauvre Paul terrifié, à l'endroit où devait être restée Sophie. Elle l'aperçut de loin, assise au milieu des fraises qu'elle mangeait tranquillement. Tout d'un coup, deux des chiens poussèrent un hurlement plaintif et coururent à toutes jambes vers Sophie.
Au même moment, un loup énorme, aux yeux étincelants, à la gueule ouverte, sortit sa tête hors du bois avec précaution. Voyant accourir les chiens, il hésita un instant. Croyant avoir le temps avant leur arrivée d'emporter Sophie dans la forêt pour la dévorer ensuite, il fit un bond prodigieux et s'élança sur elle.
Les chiens, voyant le danger de leur petite maîtresse et excités par les cris d'épouvante de Madame de Réan et de Paul, redoublèrent de vitesse et vinrent tomber sur le loup au moment où il saisissait les jupons de Sophie pour l'entraîner dans le bois. Le loup, se sentant mordu par les chiens, lâcha Sophie et commença avec eux une bataille terrible. La position des chiens devint très dangereuse par l'arrivée de deux autres loups qui avaient suivi Madame de Réan et qui accouraient aussi. Mais les chiens se battirent si vaillamment que les trois loups furent étranglés et restèrent morts sur le chemin. Les chiens, couverts de sang et de blessures, vinrent lécher les mains de Madame de Réan et des enfants restés tremblants pendant le combat. Madame de Réan leur rendit leurs caresses et se remit en route, tenant chacun des enfants par la main et entouré de ses courageux défenseurs. Madame de Réan ne disait rien à Sophie, qui avait de la peine à marcher tant ses jambes tremblaient de la frayeur qu'elle avait eue. Le pauvre Paul était presque aussi pâle et aussi tremblant que Sophie. Ils sortirent enfin du bois et arrivèrent près d'un ruisseau. « Arrêtons-nous là, dit Madame de Réan. Buvons tous un peu de cette eau fraîche dont nous avons besoin pour nous remettre de notre frayeur. » Et Madame de Réan, se penchant vers le ruisseau, en but quelques gorgées et jeta de l'eau sur son visage et sur ses mains. Les enfants en firent autant. Madame de Réan leur fit tremper la tête dans l'eau fraîche. Ils se sentirent ranimés et leur tremblement se calma. Les pauvres chiens s'étaient tous jetés dans l'eau. Ils buvaient, ils lavaient leurs blessures, ils se roulaient dans la rivière. Et ils sortirent de leur bain nettoyés et rafraîchis. Au bout d'un quart d'heure, Madame de Réan se leva pour partir. Les enfants marchèrent près d'elle. « Sophie, dit-elle, crois-tu que j'avais raison de te défendre de t'arrêter ?»«
Oh oui, maman, je vous demande bien pardon de vous avoir désobéi. Et toi, mon bon Paul, je suis bien fâchée de t'avoir appelé Poltron. »«
Poltron ? Tu l'as appelé Poltron ? Sais-tu que lorsque nous avons couru vers toi, c'est lui qui courait en avant ? As-tu vu que lorsque les autres loups arrivaient au secours de leurs camarades, Paul, armé d'un bâton qu'il avait ramassé en courant, s'est jeté au-devant d'eux pour les empêcher de passer et que c'est moi qui ai dû l'enlever dans mes bras et le retenir près de toi pour l'empêcher d'aller au secours des chiens ? As-tu remarqué aussi que, pendant tout le combat, il s'est toujours tenu devant toi pour empêcher les loups d'arriver jusqu'à nous ? Voilà comme Paul est poltron.
Sophie se jeta au cou de Paul et l'embrassa 10 fois en lui disant « Merci, merci, mon bon Paul, mon cher Paul, je t'aimerai toujours de tout mon cœur. »
Quand ils arrivèrent à la maison, tout le monde s'étonna de leur visage pâle et de la robe de Sophie déchirée par les dents du loup. Madame de Réan raconta leur terrible aventure. Chacun loua beaucoup Paul de son obéissance et de son courage. Chacun blâma Sophie de sa désobéissance et de sa gourmandise, et chacun admira la vaillance des chiens, qui furent bien caressés et qui eurent un excellent dîner d'os et de restes de viande. Le lendemain, Madame de Réan donna à Paul un uniforme complet de zouave. Paul, fou de joie, le mit tout de suite et entra chez Sophie. Elle poussa un cri de frayeur en voyant entrer un Turc coiffé d'un turban, un sabre à la main, des pistolets à la ceinture. Mais Paul s'étant mis à rire et à sauter, Sophie le reconnut et le trouva charmant avec son uniforme. Sophie ne fut pas punie de sa désobéissance. Sa maman pensa qu'elle l'avait été assez par la frayeur qu'elle avait eue et qu'elle ne recommencerait pas.
Vous avez raconté des histoires à vos enfants ?
Ah oui, beaucoup. Des histoires inventées, des histoires vraies ou agrémentées. Oui, j'adorais raconter des histoires. Ah oui. J'ai une facilité en plus pour ça, c'est vrai. Donc c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire. D'ailleurs, les enfants, ils adorent ça. Parce que quand ils sont vraiment très petits, on arrive à leur raconter quelque chose de complètement fou qui serait pas possible de trouver dans un livre quand ils sont vraiment très petits. On pourrait pas. En faisant des bruits de lion, en faisant je sais pas quoi, en mimant des personnages, on arrive à raconter longtemps une histoire à un enfant très petit.
Première lecture, lecture d'enfance. Extrait des Malheurs de Sophie, de la Comtesse de Ségur, par Sylvie Joly. Cyril Bécu, Laurent Lucas, Sylvie Migaud, Marguerite Gâteau.
Cette émission était remise en ondes par Laetitia Coya. Vous pouvez la réécouter, la télécharger sur franceculture.fr à la page des fictions.